Bismillahirrahmanirrahim. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de bien, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants qui disent quand la malheur les attend. Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Salwa versets 155 à 156 de la Sourate Baqara que je viens de vous réciter, en particulier la dernière partie. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il est sur toutes nos lèvres lorsque la mort vient accueillir l'un ou l'une des nôtres. Nous le connaissons par cœur, mais avons-nous réellement compris toute la profondeur qu'il renferme? Ce soir, je souhaiterais vous inviter à réfléchir sur l'un des concepts de ce verset du Coran, qui caractérise l'essence même du fonctionnement de notre existence, la séparation. Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournons. Selon de nombreux savants, il n'est bien sûr pas question ici d'une séparation physique avec Allah, qui est omniprésent et omnipotent, mais plutôt d'un éloignement. Allah a créé cette parcelle du temps, qui est notre vie ici-bas, durant laquelle nous sommes séparés de notre véritable nature et vers laquelle nous retournerons lorsque notre terme sera atteint. Un statut précisé par la sourate Baqara qui nous rappelle que l'homme, en tant que créature supérieure, Ashraful Makhlouqa, avait appris de son créateur l'ensemble de ses noms. Il a été gratifié de la confiance infinie d'Allah. Il a même été nommé lieutenant de Dieu sur terre, comme en témoigne le verset numéro 30 de la sourate Baqara. Mais aujourd'hui, l'homme semble avoir parfois oublié sa jeunesse. Et la vie d'ici-bas est désormais chargée de voiles séparant ces deux mondes. Et seule la destination finale, une fois atteinte, nous permettra de tous les soulever. Alors pourquoi cette séparation? Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grande sagesse, a envoyé à l'homme des milliers de messagers pour le guider dans ce voyage de retour vers son foyer. Une guidance qui ne se trouve pas uniquement dans le contenu du message, mais aussi dans leurs histoires et leurs épreuves. Et il est si frappant d'observer que depuis les prophètes jusqu'à notre temps, la séparation a toujours été une étape clé de leur existence. Prenons quelques exemples dans le Saint-Coran. À commencer par le père du prophète, Nabi Ibrahim. Dans les versets 102 à 109 de la sourate Al-Safar, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à Ibrahim d'immoler son fils Ismaïl, qu'il avait tant attendu et tant chéri. Quel degré de soumission à Dieu peut-on attribuer à ce père et ce fils, prêts à accomplir le sacrifice ultime de la séparation par amour pour leur créateur? C'est parce que cette épreuve manifeste eut lieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala inspira Nabi Ibrahim a.s. dans la postérité, que des générations de femmes, d'hommes et d'enfants renouvelleront cet acte de foi jusqu'à nos jours en accomplissant le pèlerinage du Hajj. Et se souviendront que Nabi Ibrahim a.s. était Khalilullah parce qu'il avait renoncé à ce qu'il avait de plus cher au monde pour lui. En soi, toute la profonde philosophie du Hajj. De la même façon, dans la sourate Al-Qasas, Allah subhanahu wa ta'ala évoque l'épisode de la séparation de Nabi Moussa a.s. et de sa mère, qui, pour le protéger, l'abandonne dans l'Euphrate. À y réfléchir de plus près, quel courage faut-il à une mère pour se séparer du fruit de ses entrailles vers un destin plus qu'incertain? Mais ce n'est que grâce à cette action que le grand dessein de Moïse Al-Islam, écrit par Dieu, s'accomplira, qu'il sera recueilli au sein du foyer même de Pharaon et qu'il retrouvera sa mère en tant que nourrice dont seul le lien, dont seul le sein sera accepté par le monde. Quelle humiliation pour l'un des plus grands tyrans de l'histoire, qu'est Pharaon, que d'être mis à terre par celui-là même qu'il considéra comme le sien. Les exemples similaires abondent dans le Coran, avec Nabi Yusuf ou encore Nabi Nuh. Et tous nous mènent à ces conclusions. L'épreuve de la séparation fut une étape incontournable pour accomplir la mission divine. Et ce renoncement ne peut se faire sans douleur, mais le retour ne peut se mesurer, tant il est immense en bien. Mais pouvons-nous toujours appliquer ce raisonnement de nos jours? Peut-être que nous suffit-il d'interroger notre deuxième imam, Mère al-Mahdi al-Jalallah ou ta'ala fa'l-Ajoub al-Shaykh.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjib.
Oh, combien son occultation doit être éprouvante. C'est un chef, un guide, un espoir qui souffre la vision d'un monde gangréné par l'injustice et la corruption, celle de partisans se languissant de son absence, ou encore celle d'âmes qui ont jusqu'à même oublié son existence. La raison même de sa venue au monde est de libérer toutes ces âmes souffrant de leur chaîne. N'est-ce pas là une épreuve terrible pour un être de sa nature? Et pourtant, il porte sur ses épaules plus de 1000 ans d'attente. Il est le Messie, symbole de la délivrance, le réformateur universel, celui qui placera dans les mains des déshérités l'héritage de la terre. Sayyid Mohamed Bakr Tazmini décrit dans le documentaire L'établissement du gouvernement de l'imam Mahdi alayhi salam que l'imam du temps s'adressera lors de son premier discours à la Mecque le 9 Muharram. En fait, l'imam al-Hussein alayhi salam a été assassiné injustement et je suis là pour le venger. Comment? En rétablissant la justice sur la terre. Car en vérité, si l'imam Hussein est tué, c'est pas. Voilà le profond but de cette longue séparation qui vaut bien 1000 fois la douleur endurée. Accomplir la volonté divine et accompagner le monde vers la fin des temps, vers son ultime vers Allah. Que dire des futurs imams? Parmi les ziyarets recommandées de l'imam Hussein se trouve celle que récite notre deuxième imam lui-même dans la ziyaret et Nahia, et oui, avec beaucoup, mais aussi d'images poignantes de son grand-père et de sa femme. Puis, le savoir vous demanda de désavouer le faux et vous étiez obligé de lutter contre eux. Vous êtes donc parti en compagnie de vos et de vos parents et de vos amis. Révéler la vérité et les arguments et avez invité vers Allah avec sagesse et bonne exhortation. Une fois encore, il est question pour notre paix de la terre de son grand levée depuis Mos en direction de la terre du malheur Karbala, pour défendre la véritable nature de l'islam qui fut bâclée et pervertie par les hommes. Soit même de la tragédie de Karbala, l'émotion à travers les séparations qui la jalonnent. Celle de deux amis, de deux frères, d'une mère et de ses fils, d'un oncle et de sa nièce, d'un père et de sa fille, d'un frère et de sa sœur. Une séparation qui, cette fois-ci, aura pour destin l'ultime retour vers Allah. Une séparation sans laquelle jamais le message de Karbala ne nous aurait été parvenu. C'est à la seconde même où Sayyida Zainab alayha salam laissa partir son frère que l'islam fut sauvé. C'est au moment où ses chaînes l'emmenèrent loin de la terre de reposer son frère que la révolution débuta. C'est lorsqu'elle prononça ces mots « Mal aïta illa jamila »« Je ne vis rien si ce n'est là que la tyrannie fut réduite à néant. » Nos larmes sont versées et de sont allées satisfaites et agréées par le Seigneur des mondes. Car en vérité, leur renoncement et aux êtres chers qui les entouraient n'étaient motivés que par le plus parfait amour qui soit donné d'exister, celui d'amants éplorés, qui partent à la rencontre de l'être qu'ils ont désespérément cherché toute leur vie durant et qui enfin, après une interminable séparation, le retrouvent. Qui mieux que l'émir des croyants du Imam Ali ibn Abu Talib alayhi salam. Décrit mieux cet amour saisissant que dans la loi et Khomeini lorsqu'il dit: « Si tu m'infligeais les mêmes peines que tu infliges à tes ennemis, et que tu me mettes avec ceux qui subissent le malheur auquel tu les as condamnés. Et si tu me séparais de ceux qui t'aiment et te sont fidèles, à supposer, ô mon Dieu, mon Maître, mon Souverain et mon Seigneur, que je puisse supporter le supplice que tu m'infligerais, comment pourrais-je endurer ma séparation de toi? Pensez-vous qu'un tel amour puisse exister dans nos cœurs? Un amour si pénétrant que la douleur de la chair et de l'âme par le plus cruel des châtiments ne saurait égaler celle provoquée par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala détournait le regard bienfaiteur de nous, un peu comme une mère détournerait le regard de son enfant. Et pourtant, cet amour ne peut être à la portée de chacun d'entre nous. Car le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aime, il commence par vous montrer vos faiblesses à travers les épreuves, afin que vous vous purifiez et que vous vous éleviez. Qu'importe où est notre point de départ, la patience, l'endurance et le renoncement ne sont-ils pas les meilleurs chemins pour répondre à cet amour divin qui, dans sa bonté infinie, n'a que pour seule ambition de nous aider à nous dépasser? C'est donc là que nous terminerons cette humble réflexion, qui avait pour but de contempler l'insaisissable intelligence dont Allah subhanahu wa ta'ala fait preuve dans sa création. Il a placé dans nos vies des épreuves, dont celle de la séparation, en créant l'apparent et le caché, où la douleur fait souvent place à une finalité bien plus grande et source d'innombrables bienfaits. Je terminerai avec une citation de notre très cher et regretté docteur Yahya Alawi Bono, qui, je le pense sincèrement, avait senti proche l'heure de son retour vers son Créateur. Cet océan est infini et il mène vers l'infini. Souhaitez-moi que tu fasses.